Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 16 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Voici les titres. En République démocratique du Congo, des dizaines de blessés, de nouveaux déplacés des populations sont enregistrés dans de violents combats dans l'est du pays. L'influenceur burkinabé en lin, Christophe Traoré, soutien du pouvoir burkinabé, a été arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme se dit choqué par les informations qui font état de tueries à caractère ethnique au centre du Soudan. Ici aux États-Unis, Joe Biden fait ses adieux aux Américains dans un discours à la nation dans lequel il a mis en garde contre ce qu'il appelle une oligarchie qui prend forme en Amérique. Accord entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu et la libération des otages détenus à Gaza. Et dans notre partie magazine, les attentes des électeurs américains sont différentes pour leur prochain président Donald Trump, qui deviendra le 47e président des États-Unis à partir du 20 janvier.
J'aimerais qu'ils prennent définitivement le contrôle de la frontière et de la situation des immigrés clandestins. Je suis tout à fait disposé à aider, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes enfants.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Deux dizaines de blessés et de nouveaux déplacements de populations sont enregistrés dans de violents combats qui continuent à opposer l'armée de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans l'est du pays. Le point avec Eddy Sango.
Plus de 100 000 personnes supplémentaires ont quitté leur foyer ces derniers jours, selon l'ONU. Près de 2 500 personnes sont arrivées dans les camps des déplacés des Boulengo, près de Goma, a déclaré à l'AFP les responsables du camp Faustin Mahoro. Elles ont été installées dans des hangars dans le camp où sont déjà entassées environ 38 500 familles. Des violents affrontements ont opposé ces derniers jours l'armée congolaise aux rebelles du M23, faisant des dizaines de blessés et provoquant des nouveaux déplacements des populations, révèlent des sources locales et des ONG. Ces dernières semaines, les groupes armés considérés par Kinshasa comme un mouvement terroriste a gagné du terrain, prenant notamment les contrôles des Masisi, capitale administrative du territoire situé dans la province du Nord Kivu. L'armée congolaise, qui s'est dite déterminée à reprendre les territoires perdus, mène depuis plusieurs jours des contre-offensives et la situation reste confuse dans plusieurs zones. Hier, des combats ont eu lieu autour des localités des Niragongo et Kibumba, à une vingtaine de kilomètres de Goma, tandis qu'à environ 70 kilomètres de Goma, la capitale provinciale, dans la localité des Ngungu, d'intenses combats sont en cours depuis plusieurs jours, toujours selon des sources locales et des habitants.
Le président élu du Mozambique, Daniel Chapo, a été investi hier mercredi dans une capitale sous haute surveillance après une contestation meurtrière des résultats électoraux. Il a promis de lutter contre la corruption et de bâtir un gouvernement plus transparent et efficace. Daniel Chapo a livré un discours de rupture promettant la fin de la corruption, de la désorganisation et du manque de transparence de l'État. En parallèle de cette cérémonie, 7 personnes ont été tués dans des manifestations, a annoncé l'ONG Plataforma Decide, qui a recensé ces décès dans la capitale Maputo et dans le nord à Nampula. Aux Comores, large victoire du parti présidentiel législatif, le parti du président Assoumani Azali conserve une majorité écrasante à l'Assemblée nationale avec 28 des 33 sièges remportés dès le premier tour selon la commission électorale. Parmi eux figure son fils Nour El Fazazali, élu avec plus de 85% des voix. 3 autres sièges ont été remportés par 2 opposants et 1 indépendant. 2 circonscriptions organiseront un second tour le 16 février. Le scrutin, boycotté par une grande partie de l'opposition, a été dénoncé par l'opposition unie des Comores comme une mascarade électorale. Le taux de participation n'a pas été communiqué. L'influenceur burkinabé Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso, soutien du pouvoir burkinabé, a été arrêté à Abidjan en Côte d'Ivoire, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien. Le point avec Michel Joseph.
personne n'est porté disparu en Côte d'Ivoire. Je peux vous confirmer que M. Alain Traoré a été interpellé. Une procédure est en cours. Il a été arrêté en bonne et due forme, a indiqué le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, sans donner les motifs de cette interpellation. L'épouse de l'influenceur avait affirmé sur les réseaux sociaux ne plus avoir de nouvelles de lui depuis vendredi. Une source sécuritaire ivoirienne a confirmé à l'AFP son arrestation vendredi à son domicile. Selon cette source, Alino Fasso, 44 ans, est suspecté d'avoir des liens étroits avec les bataillons d'intervention rapide de la communication BIRC, un groupe d'influenceurs très actifs sur les réseaux sociaux. Alino Fasso s'est fait connaître en organisant des collectes de fonds pour des personnes en difficulté. Il s'était installé en 2021 avec sa famille à Abidjan, où il a notamment ouvert un restaurant, mais séjourne régulièrement au Burkina Faso. En octobre 2024, il avait organisé à Ouagadougou un festival dédié aux forces de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Des supplétifs civils de l'armée engagés dans la lutte contre les djihadistes. Abidjan et Ouagadougou entretiennent des relations très tendues depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d'État en septembre 2022.
En Libye, l'ONU se dit alarmée par des vidéos d'actes de torture dans une prison qui montre de nombreux détenus, des Libyens et des étrangers, soumis à des passages à tabac violents, puis contraints à adopter des positions pénibles par des gardes en uniforme dans le centre de détention de Karnada, dans l'est de la Libye. La mission onusienne dans le pays demande des enquêtes immédiates sur ce qu'elle considère comme des violations des droits humains. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit hier mercredi choqué par les informations qui font état de tueries à caractère ethnique dans l'est d'Al Jazeera, au centre du Soudan, demandant une enquête. Le point avec Eric Manilakiza.
Nous sommes choqués par les informations faisant état de tueries à caractère ethnique de civils dans l'état d'Al Jazeera, a déclaré le Haut Commissariat sur le réseau social X. Il a appelé les autorités à enquêter pleinement sur ces informations afin de traduire les responsables en justice et d'agir de toute urgence pour assurer une protection efficace des civils. L'armée soudanaise a nié mardi son implication dans des attaques contre des civils dans l'état d'Al Jazeera après qu'une organisation d'avocats pro-démocratie, Emergency Lawyers, l'a accusé ainsi que des milices alliées d'y avoir tué 13 personnes, dont 2 enfants. Selon Emergency Lawyers, les communautés visées ont été victimes de discours de haine et d'accusations de soutien au FSR. Le groupe accuse l'armée et les milices d'exécutions extrajudiciaires, d'enlèvements ainsi que de tortures physiques et psychologiques. Son groupe d'avocats soudanais documente les atrocités commises depuis le début de la guerre. L'armée a repris samedi au FSR Wad Madani, la capitale de l'état d'Al Jazeera. Depuis avril 2023, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires de l'histoire récente, selon
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël et le Hamas se sont mis d'accord mercredi sur un cessez-le-feu et un accord de libération des otages détenus à Gaza. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que des questions restaient à régler. Alexandrine Holognon.
L'accord cadre qui doit entrer en vigueur dimanche comprend 3 phases interconnectées selon l'organe de presse égyptien Al-Qaïra. La première phase durerait 42 jours et impliquerait un arrêt temporaire des opérations militaires des deux côtés, le retrait des forces israéliennes loin des centres de population et vers les frontières de Gaza, et l'arrêt temporaire des survols par les avions de guerre et de reconnaissance israéliens pendant 10 heures chaque jour. Des pourparlers sont également en cours pour ouvrir le passage frontalier entre l'Égypte et Gaza à l'aide humanitaire. La question du contrôle ou non du corridor de Philadelphie, zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza, le long de la frontière avec l'Égypte par l'armée israélienne, était l'un des points d'achoppement dans les négociations. Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a indiqué dans un communiqué que plusieurs questions restaient encore à régler dans l'accord et qu'il espère que les détails seront finalisés cette nuit. Et avant de pouvoir entrer en vigueur, l'accord final devra être validé par un vote du gouvernement israélien.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a mis en garde mercredi dans un discours d'adieu contre une oligarchie qui prend forme dans la première puissance mondiale à quelques jours du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Il a également alerté dans cette ultime adresse à la nation sur une concentration dangereuse des pouvoirs dans les mains d'une poignée de personnes ultra riches. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Kalani.
La production de pétrole et de gaz naturel du champ baleine au large de la Côte d'Ivoire dépasse les prévisions effectuées lors de la découverte du gisement, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Selon Amadou Koulibaly, la production quotidienne devrait atteindre entre 50 000 et 60 000 barils de pétrole, contre 35 000 prévus. Celle du gaz naturel sera de 50 à 60 millions de pieds cubes par jour, contre 40 millions initialement estimés. Le Niger et la société chinoise WAPCO ont signé des accords à Niamey pour sécuriser les opérations et les installations pétrolières, notamment l'oléoduc géant transportant le brut vers le Bénin, qui a été attaqué à plusieurs reprises. Le ministère nigérien du pétrole a indiqué que la Chine propose de surveiller l'oléoduc de près de 2000 km reliant Agadem, dans le nord-est du Niger, au port béninois de Semekpoudi, à l'aide de drones. Pour terminer, le président du Ghana, John Mahama, a annoncé une enquête sur la construction de la cathédrale nationale, un projet controversé de 400 millions de dollars lancé par son prédécesseur Nana Akufo-Addo.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Tirage au sort hier du CHAN à Nairobi.
Effectivement, la CAF a procédé au tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations 2025 à Nairobi au Kenya qui co-organise la compétition avec la Tanzanie et l'Ouganda. Cette édition doit regrouper 19 équipes participantes réparties en 4 groupes, une poule classique de 4 équipes et 3 poules de 5 équipes. Dans le groupe A, on retrouve le Kenya, le Maroc, l'Angola, la RD Congo et la Zambie. Le groupe B renferme la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Le champion en titre, le Sénégal, partage le groupe D avec le Congo, le Soudan et le Nigeria. Dans la poule C, on retrouve l'Ouganda, le Niger, la Guinée et deux équipes supplémentaires qui rejoindront les 17 équipes qualifiées pour la phase finale. Ces deux équipes seront déterminées lors d'un match de qualification spéciale à une date qui sera annoncée ultérieurement. Les équipes concernées comprendront la Sierra Leone, les Comores, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie qui s'étaient retirées des qualifications précédentes du CHAN en raison de conflits d'horaire. Le tournoi se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda au mois d'août prochain.
Parlons à présent du rallye Dakar. Roma a gagné la 10e étape hier en auto, mais Letegan repasse en tête.
Oui, le pilote espagnol Nani Roma a remporté en auto la 10e étape du rallye Dakar 2025, qui a vu le Sud-Africain Henk Letegan repasser en tête du classement général. La Ford Raptors de l'Espagnol de 52 ans a conclu la spéciale de 120 km dans les dunes autour de Chubaïta. En 2h06 minutes 34 secondes, sa première victoire d'étape sur le célèbre rallye raid depuis 2015, profitant d'un ensablement qui a fait perdre de précieuses minutes à son concurrent saoudien Yazid Al-Raji. Le Sud-Africain Henk Letegan lui a repris la tête du classement général provisoire pour 2 minutes 27 secondes. Le podium du jour est complété par le Brésilien Lucas Moraes à 18 secondes et la Saoudienne Dania Akil à 1 minute 40 secondes.
Un fonds d'investissement américain rachète l'Hellas Vérone.
Presidio Investors, une société de capital investissement basée à Austin au Texas, et Maurizio Setti sont heureux d'annoncer que Presidio s'est porté acquéreur de 100% du capital de l'Hellas Vérone, a indiqué le club italien qui occupe actuellement la 17e place du championnat d'Italie. Après ce rachat, 8 des 20 clubs évoluant en Serie A sont désormais aux mains de propriétaires américains. Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais selon la presse économique italienne, il serait compris entre 120 et 130 millions d'euros pour un club en difficulté financière. Presidio Investors est un fonds d'investissement spécialisé dans la technologie. L'Hellas sera dirigé désormais par Italo Zanzi, un Américain d'origine italienne qui a longtemps travaillé à la CONCACAF et à la Ligue professionnelle de baseball. Il connaît la Serie A pour avoir été directeur général de l'AS Rome. L'Elas, qui dispute en 2024-2025 sa 35e saison en Serie A, a remporté un seul titre de champion d'Italie. C'était en 1984-1985.
Merci à Kouba. De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, 3 Chinois ont été condamnés à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Bukavu. Ils ont été reconnus coupables d'achats illicites et détention illégale d'or. La décision a été rendue tard hier par le tribunal de la capitale de la province rivière du Sud Kivu. Michel Joseph.
Ces 3 Chinois avaient été arrêtés le 4 janvier à bord d'une voiture en possession de lingots d'or et d'importantes sommes en liquide dans l'est de la RDC. Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu.
On a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, précisément, ça c'est 100 000 dollars. Ça fait 800 000 dollars.
Mardi soir, le tribunal de Bukavu, présidé par le juge Fale Mabumba Papi, les a condamnés à 7 ans de prison ferme pour achat illicite et détention illégale de minerais.
Condamne chacun des prévenus qui se nommait à l'unique peine de 7 ans de service pénal principal et au paiement d'une amende dont les montants en francs congolais et l'équivalent de 600 000 dollars américains.
Les accusés avaient plaidé coupables pour 4 des 7 chefs d'accusation retenus contre eux. Le juge les a acquittés des accusations de fraude et d'extraction illégale de minerais, faute de preuves. Le chef d'exploitation illicite de minerais n'a pas été retenu. Ces Chinois ont affirmé tout au long du procès qu'ils ne savaient pas qu'ils enfreignaient la loi congolaise avant d'être arrêtés. En attendant, l'or et l'argent ont été saisis. De nouveau, le juge Fale Mabumba Papi
ordonne la confiscation au profit de l'État congolais des 10 lingots d'or pesant 15,712 kilos ainsi que de la somme de 400 000 dollars.
Les 3 Chinois ont aussi été reconnus coupables de séjour irrégulier en RDC et interdits de revenir dans le pays après avoir purgé leur peine. Pour l'avocat Christian Wanduma, ce procès est pédagogique.
Et c'est un procès pédagogique qui va normalement interpeller tous les citoyens chinois qui pensent qu'ils peuvent quitter la Chine, arriver à Kitutu, à Kibe, Lugushwa, ou Kamituga, ou Mwenga, et se porter comme si vous étiez dans votre chambre sans payer même le frais de l'hôtel.
Dans la province du Sud Kivu, riche en ressources naturelles, des centaines d'entreprises minières, principalement chinoises, extraient de l'or sans déclarer leurs bénéfices et souvent sans permis valide, selon les autorités locales. Le gouvernement local s'est lancé en juillet dans une bataille contre les entreprises minières qui ne sont pas en conformité avec la loi en déclarant la suspension de leurs activités. Début janvier, quelques centaines de personnes ont manifesté à Bukavu contre l'exploitation minière illégale, dénonçant un pillage des richesses du pays.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Le Soudan a récemment introduit de nouveaux billets de banque. L'objectif, selon les autorités, est de dévaloriser les fonds volés par les paramilitaires des FSR et aussi de promouvoir l'inclusion financière. Cette initiative a certes permis de stimuler les dépôts bancaires, mais a également exclu de nombreuses personnes, notamment celles vivant dans des zones contrôlées par les forces paramilitaires. Les critiques pointent des difficultés d'accès au système financier pour une grande partie de la population. Récit Nani Talani.
L'introduction de nouveaux billets de banque veut lutter contre l'inflation et assainir l'économie. Pour le ministre des Finances, Dibril Ibrahim, le but principal est de rendre inutilisables les fonds volés par certaines entités en obligeant les Soudanais à entrer dans le système bancaire.
Voilà. L'échange de billets de banque a plusieurs objectifs, dont l'un est de s'assurer que l'argent volé accumulé par certaines entités n'a aucune valeur s'il entre dans le système bancaire. S'ils tentent de le faire, nous le découvrirons car nous demandons l'origine de l'argent s'il y a des soupçons. Par conséquent, il ne sera plus efficace après la fin du délai du processus d'échange.
La réforme vise aussi à encourager une meilleure inclusion financière, une modernisation du système financier, ainsi qu'un accès plus facile aux services bancaires.
Nous visons à ce que les échanges de billets de banque poussent les citoyens vers l'inclusion financière et les systèmes de paiement en ligne. Cela oblige les gens à ouvrir des comptes bancaires. Dieu merci, des centaines de milliers de citoyens ont ouvert des comptes bancaires.
Cependant, beaucoup de commerçants et de citoyens vivant dans des zones éloignées ou contrôlées par les forces paramilitaires ne disposent pas des documents nécessaires pour ouvrir un compte bancaire ou des téléphones leur permettant d'effectuer des paiements en ligne. Les pêcheurs et petits commerçants comme Ali Moneb expriment leur frustration face à la complexité du système.
Nous travaillons avec des pêcheurs dont les trois quarts n'ont pas de papier d'identité, ni de téléphone moderne pour utiliser les applications bancaires mobiles. Maintenant, tout notre capital est déposé à la banque. Lorsque vous aurez besoin d'argent liquide à l'avenir, ils ne vous en donneront pas. Vous pourriez passer une journée entière pour obtenir 50 000 ou 100 000 livres soudanaises.
Certains commerçants sont contraints de recourir à la vente en ligne pour compenser la baisse de leur activité. Amna Mahmoun est propriétaire d'un magasin.
Nous avons perdu nos clients qui achetaient en liquide à cause du changement de billets de banque. Sans nos ventes en ligne sur les médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, nos ventes auraient été nulles.
Le ministre des Finances, Djibril Ibrahim, a insisté sur l'importance de cette initiative pour aider à reconstruire une économie dévastée par les conflits. Dans le contexte de la guerre civile et de la dévaluation de la monnaie, cette réforme financière est un effort du gouvernement pour restaurer la confiance dans le système bancaire et limiter les flux d'argent illégal.
Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis à partir du 20 janvier. Les électeurs américains ont des attentes différentes pour leur prochain président. Le correspondant de la VOA, Scott Stearns, nous en parle. Récit d'Iridico.
Dans l'état du Mississippi, au sud des États-Unis, les attentes à l'égard de la seconde présidence de Donald Trump sont mitigées. Bobby Joe Harrell a voté pour Trump.
J'aimerais qu'il prenne définitivement le contrôle de la frontière et de la situation des immigrés clandestins. Je suis tout à fait disposé à aider, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes enfants. Mais j'aimerais aussi que mes enfants et mes petits-enfants puissent profiter de l'Amérique dans laquelle j'ai grandi.
Angelo Meyer, un New Yorkais transgenre, s'inquiète de l'avenir sous l'administration qui a exprimé son opposition aux soins de santé spécifiques à son genre.
Need to know. Investing in trans kids.
Les républicains qui nous regardent doivent savoir qu'investir dans les enfants transgenres est tout aussi important qu'investir dans leurs propres enfants, car nous sommes la prochaine génération qui va diriger ce pays. Et nous avons des idées brillantes, un avenir solide.
And we have bright ideas.
Sean Cushing souhaite que Trump se concentre sur l'économie.
Il suffit de s'en tenir aux promesses de campagne et de mettre fin aux taxes sur les pourboires, comme il l'a dit.
Jerry Helton, dans le Mississippi, est d'accord pour dire que l'économie est la priorité absolue.
J'aimerais que le président Trump puisse à nouveau faire baisser le coût de la vie pour nous. J'en ai assez de vivre de paye en paye.
En Pennsylvanie, Samira Sherfawi s'inquiète de l'impact de Trump sur ses droits reproductifs et religieux.
Je pense que je perds mes droits de femme. Je pense que je perds mon droit à la religion parce que je vois qu'il veut mettre en avant uniquement le christianisme. Or, je pense que ce pays est ouvert à toutes les religions. J'ai l'impression que tout le monde devrait pouvoir apprendre la religion à l'école et pas seulement une seule.
Au Texas, Ross Barrera, qui soutient Trump, affirme que l'expérience en affaires du futur président aidera à redresser le pays.
Les gens sont fatigués. Ce que les gens veulent ici, c'est de l'emploi. Ils veulent une
une bonne économie, ils veulent une baisse de l'inflation, ils veulent la sécurité aux frontières, ils veulent du pétrole et du carburant.
La chose la plus importante que Trump puisse faire pour Yael Frosto, un électeur du Mississippi, est de présenter un programme clair.
Je voudrais qu'il soit direct sur les politiques qu'il va mettre en place dans le pays, pour que nous sachions, tous les membres du Parti républicain et du Parti démocrate, ce qui nous attend ou non dans les 4 prochaines années.
Donald Trump prêtera serment en tant que président à Washington le 20 janvier.
La voix de l'Amérique, Bondi 101.7 FM.
En Californie, de fortes ravales de vent menacent d'attiser les vastes incendies qui sévissent encore autour de Los Angeles. Le bilan s'est alourdi, passant à 25 morts. Le nombre de structures endommagées ou détruites est estimé à plus de 12 000. Je vous propose le témoignage de Kojovi Olimpio, artiste plasticien d'origine togolaise. Il est joint par Alexandrine Hologno.
J'avais remarqué au début qu'il y avait beaucoup de fumée partout, mais c'était à questionner. Mais je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Et puis, j'ai rencontré l'ami qui me parlait de l'incendie et comment elles avaient déjà perdu l'électricité et tout. Quand j'avais appris, c'était le mardi soir. Le mercredi, déjà, les gens qui ne sont pas trop loin de moi, quelques kilomètres, avaient déjà commencé à évacuer. Mes amis, ils m'appelaient, il y en a qui avaient embarqué sans destination et déjà on voyait des fumées, tout le monde était paniqué et tout ça. Et puis je suis allé sur les réseaux sociaux et j'ai vu plus quoi.
Quelle a été votre réaction en apprenant que des amis autour de vous ont été touchés par les flammes?
Ouais, la réaction est que c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont arriver à contrôler cet incendie? Il y avait beaucoup de questions, quoi. Est-ce qu'ils ont des aides pour des gens qui n'ont nulle part à aller et tout ça, là.
Et vous-même, personnellement, vous n'avez pas été touché?
Non, personnellement, je n'ai pas été touché par l'incendie, mais déjà, chez moi, ma maison a été... mon appartement a été complètement couvert de poussière. On avait reçu le warning... que, you know, de s'apprêter, que ça devient grave et qu'on doit bouger. Donc, moi, tout de suite, on avait déjà commencé à s'embarquer. Mais j'avais eu de la chance parce que le feu était vraiment proche, mais à cause du vent, quoi. Ça nous a un peu raté.
Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que vous avez tout le nécessaire ou bien il y a des besoins?
Aujourd'hui, tout comme dans le temps de COVID, ils essaient de s'entraider et il y a de l'aide qui venait partout. Mais en même temps, il y a des gens qui profitent, you know, pour rentrer dans la maison des autres et voler. Il y a des gens même qui se déguisent en sorte de sapeurs-pompiers pour voler et tout, quoi, au lieu d'aider. Et il y a aussi des habitants qui commencent aussi leur incendie, leur propre incendie, et se jouent de la situation. Donc, c'est un peu compliqué, quoi.
Kojovi Olimpio, témoin des incendies en Californie.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute VOA Afrique. Au revoir.
monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le monde aujourd'hui,